Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Au micro Perry Willet, merci de votre fidélité pour notre émission de chaque troisième dimanche. Nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Thomas. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui le grand officier de la Grande Loge de France à la culture, mais chacun se souvient que vous étiez déjà venu à notre émission au mois de juin de l'année dernière et nous avons parlé ensemble de la musique et des francs-maçons et musiciens. Mais aujourd'hui, c'est pour un tout autre sujet que nous vous interrogeons. Mais je voudrais dire en passant que, puisque vous êtes un historien amateur de la culture, vous allez bientôt éditer un livre qui est la biographie du comte de Clermont. Et si j'ai bien compris, le comte de Clermont, qui était le grand maître de la première obédience, qui s'appelait la Grande Loge à l'époque. Il était grand maître de 1741 à, je crois, 1771.
Jusqu'à sa mort, oui.
Et il faut rappeler quand même que le comte de Clermont était pas autre chose, une autre personne, que le petit-fils de Louis XIV. Ce qui fait que la franc-maçonnerie est très attachée à la République et très connotée avec l'histoire de nos républiques, de la première jusqu'à la cinquième aujourd'hui, en France. Mais finalement, la franc-maçonnerie était très attachée à la monarchie à l'époque.
Absolument.
Donc là, on parle du XVIIIe siècle, mais l'objet de notre émission de ce jour, c'est plutôt le XXIe siècle et d'une grande manifestation que la Grande Loge de France organise à Bordeaux, qui s'appelle ICOM. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi s'agit-il ? Et puis peut-être pourquoi Bordeaux aussi.
D'accord. Alors, ICOM, International Conference of Masonry, voilà, qu'on peut traduire en français par Rencontre internationale de la franc-maçonnerie. Bon, pardon pour le franglais, mais pour une fois, c'est assez légitime puisque c'est axé sur les relations entre l'ancien monde, la vieille Europe et en particulier la France, et le nouveau monde, la Caraïbe d'abord, puis les 13 colonies d'Amérique et bientôt les États-Unis. Au XVIIIe siècle, là, c'est une histoire partagée, une histoire commune entre les maçons des deux côtés de l'Atlantique.
Alors, je crois qu'il y avait une précédente édition de l'ICOM à Toulon, il y a 2 ans. Donc cette année, c'est à Bordeaux. Qu'est-ce qui justifie le choix de Bordeaux?
Voilà. Alors, la précédente, c'était il y a 2 ans à Toulon, axée autour des anciens des modernes, qui est un vieux thème, effectivement, de l'histoire maçonnique. Cette fois-ci, c'est Bordeaux. Bordeaux, parce que, bien sûr, Bordeaux est un des plus grands ports du XVIIIe siècle. Hein, le deuxième, je crois, après Amsterdam, en volume de quantité. C'est une très belle ville, XVIIIe siècle. Et c'est une ville, bien sûr, de passage avec le Nouveau Monde, principalement les États-Unis. Et voilà pourquoi l'ICOM a été... pourquoi Bordeaux a été retenu, et en particulier, bien sûr, sur un aspect très particulier, qui est l'histoire du rite écossais ancien et accepté, qui est le rite le plus pratiqué dans le monde, et pour lequel Bordeaux, effectivement, constitue un double point d'attache.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ce nouveau monde et l'ancien monde, par rapport au rite que vous évoquez à l'instant?
Voilà, alors il s'est passé qu'au XVIIIe siècle, eh bien, un négociant international qui s'appelait Stéphane Morin pour les Américains, importe au outre-Atlantique le rite du royal secret en 25 degrés, qui est le rite des maîtres de Paris, et il va le répandre sur la Caraïbe, et via son disciple Franklin, il va le répandre sur le continent nord-américain. Voilà ce qui fait que ce rite qui est le plus pratiqué dans le monde est aussi le berceau de la maçonnerie américaine. Et ce rite va revenir en 33 degrés, quelques années plus tard, en 1804, à nouveau via Bordeaux, puisque c'est un membre du premier suprême conseil américain, un français, Auguste de Grastilly, qui va le rapporter en France et qui va créer le suprême conseil de France.
Alors le rite en question, c'est le rite écossais ancien et accepté.
Le rite écossais ancien et accepté.
Mais si je vous écoute, on aurait l'appelé le rite américain ou français américain ou américain français ou j'abuse un peu.
C'est tout à fait exact, mais bon, le terme écossais a été retenu puisque c'est un terme générique à l'histoire de la maçonnerie, même si son origine reste quand même relativement mystérieuse. Je pense que le mot écossais a peut-être servi de faux nez pour distinguer la maçonnerie française de la maçonnerie anglaise, et puis après, pour distinguer la maçonnerie américaine de la maçonnerie anglaise.
Donc peut-être rappeler à nos auditeurs, mais je crois qu'on l'a rappelé dans nos précédentes émissions, que le rite écossais ancien accepté, donc constitué de 33 degrés, les trois premiers degrés, apprentis, compagnons et maîtres, sont gérés par la Grande Loge de France.
Absolument.
Et que le 4e au 33e degré
sont gérés par le Suprême Conseil de France.
Qui sont deux entités
complémentaires et indépendantes l'une de l'autre, il va sans dire.
Alors, donc à Bordeaux, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates de cette manifestation importante ? Donc c'est un colloque international où un certain nombre d'obédiences françaises et étrangères se réunissent.
Voilà, c'est un...
À quelle date ?
Alors, c'est le 8 et 9 juin prochain, donc il y a la plupart des obédiences françaises et les obédiences représentant un certain nombre de pays qui vont des États-Unis, l'Angleterre, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, je ne vais pas toutes les citer. Donc il y aura énormément, un certain nombre de chercheurs, les principaux chercheurs en histoire maçonnique internationaux. Donc les débats seront en français, en anglais. Je rassure ceux qui veulent y venir, il y aura une traduction simultanée pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais ou pour les étrangers qui ne maîtrisent pas le français. Et ces chercheurs viennent à Bordeaux pour confronter entre eux et confronter avec le public, puisque le public est admis, le grand public est admis, que l'on soit maçon ou que l'on ne soit pas maçon, naturellement, puisque c'est la prise en compte de la maçonnerie comme élément constitutif d'une histoire et d'une histoire partagée entre le continent américain et l'Europe.
Alors, il faut peut-être rappeler les noms de Jean-Louis Trébuchet et de John Belton. Alors, Jean-Louis Trébuchet, vous pouvez nous expliquer, nous rappeler
Louis Trébuchet est le fondateur de l'ICOM, donc c'est un spécialiste de l'histoire du rite écossais ancien accepté, auquel il a consacré de grands volumes, qui sont maintenant des volumes de référence. Et il est président du comité scientifique et le vice-président est, lui, un membre éminent du fameux Quatuor Coronati, qui est une instance de recherche maçonnique très importante en Grande-Bretagne.
Mais alors, les loges de recherche, elles recherchent quoi ? Elles étudient quoi, les loges de recherche, tant à la Grande Loge de France que dans les autres obédiences que vous avez citées ?
Alors, elles étudient l'histoire maçonnique dans ses aspects les plus essentiels, et bien sûr, en partie, à partir des archives que possèdent les obédiences ou que possèdent les fonds des bibliothèques des États concernés. Bon, en France, par exemple, la Bibliothèque nationale conserve un énorme fonds maçonnique, manuscrit, et ces chercheurs cherchent d'abord à établir l'histoire spécifique de leurs obédiences, des rites, mais également ce qui les rassemble, puisque vous savez que la maçonnerie, elle est à la fois internationale. Elle a des particularités selon les nations et selon les obédiences, mais le fond, bien sûr, est commun, et la recherche, naturellement, est commune.
Mais ces recherches sont-elles accessibles aux non-maçons ?
Alors, elles sont accessibles aux non-maçons lorsqu'elles sont publiées, effectivement, soit dans des revues scientifiques, soit dans des sommes individuelles qui sont publiées par certains auteurs qui se sont, au fil des années, imposés comme des spécialistes. Tout le monde peut naturellement avoir accès, et surtout également l'université, puisque maintenant, de plus en plus d'étudiants des universités consacrent des mémoires de recherche ou des thèses à l'histoire de la maçonnerie, qui est quand même un des domaines importants de l'histoire de l'idée, voire parfois de l'histoire des sciences politiques.
Donc c'est pour montrer que finalement la maçonnerie était complètement dans la société. Elle n'était pas une espèce de dans un milieu enfermé, loin de la vie de la cité, que ce soit au 18e, 19e, 20e siècle et aujourd'hui.
Voilà. Les maçons, à toutes les époques, se sont intéressés à la société et ont absorbé une partie des idées de la société, même si leurs traditions sont souvent plus anciennes que ces sociétés. Donc elles se sont nourries, et inversement, la société s'est parfois nourrie des idées maçonniques, y compris dans certains grands domaines politiques, comme par exemple en France, la séparation des églises et de l'État, ou les lois sur les associations, qui ont été, sous la Troisième République, en partie inspirées des réflexions des loges maçonniques. Et ce sera effectivement le cas aussi de la guerre d'Amérique, la guerre d'indépendance des États-Unis, où la maçonnerie a joué un rôle important, qui sera d'ailleurs abordé dans ce colloque de Bordeaux.
On peut peut-être rappeler d'ailleurs ce sujet que, pour la guerre d'indépendance, qui ne s'appelait pas les États-Unis à l'époque, pour cause, ce sont des maçons qui ont convaincu le roi Louis XVI d'intervenir et donc finalement de demander à un monarque d'aider la naissance d'une république. C'est quand même assez étonnant de le rappeler.
Un joli coup de force, et effectivement les maçons ont littéralement harcelé les gouvernements de Versailles, mais surtout grâce à un maçon particulièrement exemplaire qui est Benjamin Franklin, qui a été l'ambassadeur bien sûr de cette nouvelle démocratie, mais bien bien plus qu'un ambassadeur, qui a effectivement joué un rôle considérable.
Alors, je reviens aux loges de recherche, finalement, on peut dire qu'elles se consacrent à l'étude du fait maçonnique, mais aussi de ses doctrines, de l'histoire, des fondements des rites, des rituels et des légendes. Peut-être que ça permet au grand public de savoir quelle est la signification des mots que je viens d'utiliser, comme rite, rituel et légende, et symbole.
Absolument, absolument. Oui, les légendes, effectivement, sont constitutives de la maçonnerie. Le mythe a une très grande importance dans l'histoire maçonnique, puisque de toute façon, l'important en maçonnerie, c'est l'interprétation que chaque membre peut faire, peut tirer lui-même de ces mythes, de cette perspective.
Il y a, à ce salon ICOM qui aura lieu donc à Bordeaux, il y a un certain nombre de conférences, je crois qu'il y en a 5, il y a 18 tables rondes, il y a une cinquantaine de conférenciers qui vont intervenir, peut-être vous pouvez noter quelques exemples des conférences, et puis il y a, je crois, un élément assez festif, je ne sais pas comment il faut l'appeler, à la fin qui clôt cette manifestation qui sera très proche des costumes et coutumes et rites du XVIIIe siècle.
Alors effectivement, il y a donc des conférences, c'est un ensemble de conférences donc en traduction simultanée, donc les conférenciers présenteront chacun un certain nombre de thèmes relatifs effectivement autour du rite écossais ancien et accepté, mais pas seulement. Il y aura là la naissance de la maçonnerie dans les États-Unis, des conférences par exemple sur l'histoire de la maçonnerie dans la Louisiane, il y aura une conférence importante de Claude Colin sur la création du suprême conseil de France, il y aura également des débats axés autour de la guerre d'Amérique, comme on vient de le dire, et tout cela seront donc accessibles au public, qui naturellement, à l'issue des conférences et des tables rondes, pourront poser des questions avec les intervenants. Il y aura également un salon du livre maçonnique, il y aura également une exposition issue des collections de la Grande Loge de France, issue du musée de la Grande Loge de France, qui possède d'assez belles collections. Il y aura également un salon du vin, puisque nous sommes à Bordeaux, voilà, et vous savez que la franc-maçonnerie, j'ai souvent tendance à dire, c'est comme le vin, ça se bonifie en vieillissant. Elle a maintenant, on considère qu'elle a 300 ans à peu près sur l'ensemble de l'Europe. Et il y aura effectivement une manifestation qui sera un grand banquet qui aura lieu dimanche, donc qui est toujours accessible aux maçons et aux non-maçons. Et ce banquet va reconstituer le banquet qu'Étienne Morin, puisqu'on revient toujours à cet important négociant, qu'Étienne Morin a vécu en 1760 et le service se fera par des comédiens en costume d'époque, en musique, avec des musiciens en costume d'époque, qui joueront naturellement de la musique d'époque, voilà, et on retracera un banquet avec des santés maçonniques, avec tout l'aspect traditionnel que comportent les banquets maçonniques.
Alors peut-être, je vais rappeler les quelques frères de la Grande Loge de France et du Suprême Conseil de France qui vont intervenir au cours de cette table ronde. Bien sûr, Pierre-Marie Adam, le grand maître de la Grande Loge de France, sera présent. On a cité John Belton, donc qui est
du Quatuor Coronati.
Il faut citer aussi Claude Colin, l'ancien puissant souverain grand commandeur du Suprême Conseil de France, qui est le président de la Commission Histoire, qui interviendra également. Jacques Rosen, l'actuel puissant souverain grand commandeur du Suprême Conseil de France. Peut-être citer, évidemment, rappeler Jean-Louis Trébuchet, qui est la cheville ouvrière de cette réunion. Louis Vial, qui est un vénérable maître d'une loge de recherche Étienne Morin à Bordeaux. Et Jean-Jacques Zembrowski, que l'on a déjà interrogé ici à cette émission, qui est un ancien chancelier, un grand chancelier de la Grande Loge de France, donc très au fait des relations entre France et Amérique.
Qu'il connaît très bien, absolument.
Et qui connaît bien cet univers-là. Donc on donne rendez-vous à tout le monde pour ce week-end du 8 et 9 juin. On peut s'inscrire, c'est très facile, il y a un site web qui est www.icom.fm. FM, et donc il est tout à fait possible encore de s'inscrire.
De s'inscrire, il y a de la place, absolument. Voilà, et donc pour une somme relativement modique, soit une somme forfaitaire pour l'ensemble de la manifestation, soit un forfait à la journée qui est assez faible, mais on peut aussi visiter gratuitement le salon du livre maçonnique et l'exposition qui, elle, est ouverte gratuitement.
C'est un événement assez exceptionnel, parce que je vois que, évidemment, la Grande Loge de France, Suprême Conseil de France, mais le Grand Orient d'Uruguay, la Grande Loge de Californie, la Grande Loge de New York, la Grande Loge d'Écosse, de Belgique, la Grande Loge féminine de France, la Grande Loge nationale de Grèce, la Grande Loge unie de Grèce, l'Institut maçonnique de France, des loges de recherche aussi d'autres obédiences. Donc c'est un fait assez exceptionnel où un grand nombre d'obédiences internationales se réunissent dans un seul endroit à Bordeaux. C'est suffisamment rare pour que nous invitions nos auditeurs à s'inscrire pour y participer.
Voilà, c'est une grande manifestation. C'est la plus grande manifestation culturelle maçonnique française de l'année. Et surtout, elle illustre bien l'aspect universel de la franc-maçonnerie. Donc, quelles que soient les nationalités, quelles que soient les langues, quelles que soient les sensibilités des uns et des autres.
Merci Jean-Pierre d'y participer, parce que vous allez vous-même être un des conférenciers de ce week-end assez exceptionnel. Alors, je dois vous parler aussi de point de vue initiatique. Nous allons, au mois de juin, éditer un nouveau numéro qui s'appelle « Franc-maçon à la Grande Loge de France ». Donc, il y a plusieurs thèmes, comme la spiritualité du rite écossais ancien accepté, les sources profondes de notre rite, franc-maçon et citoyen, le langage symbolique. Un certain nombre d'anciens grands maîtres, de jeunes frères, viennent dire pourquoi ils sont membres de la Grande Loge de France, de plus anciens frères, pourquoi ils y sont toujours encore. Et puis, bon, un petit clin d'œil, Jean-Pierre, dans la revue Histoire de notre revue Point Initiatique, vous allez traiter de la Grande Loge de France entre mythe et histoire. Mythe et histoire, ça pourra faire l'occasion d'une nouvelle émission, peut-être l'année prochaine, où nous rencontrerons à nouveau.
Espérons-le.
Merci à tous et à toutes de nous écouter. Merci évidemment à Alain Joubert à la technique et merci à Dany Journaud, fidèle à la réalisation. Nous vous donnons rendez-vous au mois de juin, le troisième dimanche de juin. Et puis après, nous aurons nos émissions au mois de juillet et au mois d'août. Bon dimanche à tous. À très bientôt.